Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique, c'est maintenant sur Radio France Internationale. Et c'est avec vous, Laure Salvin. Bonsoir.
Bonsoir.
Directrice générale de Kantar Public France, institut de sondage. Alors, les convois de la liberté, c'est-à-dire contre le pass vaccinal et plus de pouvoir d'achat, ont quitté la région parisienne pour rallier Bruxelles afin d'y manifester demain. Paris reste sous haute surveillance policière, ce qui a généré d'ailleurs des embouteillages, alors que paradoxalement, il s'agissait d'empêcher les blocages aux portes de la capitale. Hier, les forces de l'ordre ont procédé à 97 interpellations, 513 verbalisations, et la ministre Marlène Schiappa a défendu l'interdiction du mouvement sur RTL ce matin.
Quand il y a une menace de venir bloquer Paris, nous, à qui on pense? On pense par exemple à ces commerçants, ces petits commerçants qui ont ouvert, qui ont été bloqués par les gilets jaunes, fermés à cause de la pandémie de Covid, et qui aujourd'hui tentent de renouveler leur activité économique, après avoir été soutenus d'ailleurs par Emmanuel Macron, et qui se retrouvent de nouveau avec cette menace de blocage. C'est notre responsabilité d'assurer l'ordre public. On ne peut pas nous reprocher à la fois d'être laxiste sur la sécurité et de trop assurer l'ordre public quand nous le faisons.
Quant au président Les Républicains de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, Éric Woerth, il ironise.
L'idée même de liberté est évidemment pour le moins paradoxale. Vouloir bloquer Paris, gêner les citoyens dans leurs propres déplacements, c'est évidemment pas de la liberté. Les mots d'ordre sont aussi dans tous les sens. C'est le pass vaccinal, c'est le pouvoir d'achat, c'est mille choses, c'est l'énergie, c'est l'essence. Bon, a priori, ils en consomment beaucoup d'ailleurs. Donc je vois pas bien. Sinon l'idée qu'on n'est pas content. Quoi. Mais c'est vrai, il y a 67 millions de Français qui sont souvent pas contents. C'est même notre ADN.
Alors Salvin, le mouvement des Gilets jaunes était parti de la contestation d'une hausse du prix de l'essence. C'est pareil ici, avec la contestation du pass vaccinal en plus. Est-ce qu'il y a une analogie à faire?
Ce qui est sûr, c'est que ce qui est commun aux deux mouvements, c'est la focalisation sur le pouvoir d'achat. Je pense que le pouvoir d'achat est la priorité, préoccupation prioritaire aujourd'hui des Français, notamment dans cette campagne présidentielle. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les Gilets jaunes, finalement, n'ont pas réussi à transformer l'essai. On aurait pu s'attendre à une candidature spécifique des Gilets jaunes, et on l'a pas vu ici dans le cadre de cette élection présidentielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Gilets jaunes, comme les convois de la liberté, ont en commun de vouloir mettre le peuple au centre des débats, les préoccupations des Français au centre des débats. Et en ce sens-là, il y a une analogie, oui, bien sûr.
Il y a quelques commentaires, mais il semble que cette fois, il n'y ait pas de relais, pas de dynamique politique, de reprise.
En effet, il y a eu quelques soutiens, ou en tout cas quelques mots de la part de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, mais il n'y a pas d'entraînement spécifique de la part de ces convois de la liberté chez les candidats aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle.
Cette campagne électorale est marquée par ailleurs par un mercato, comme au foot, des changements d'équipe en cours de saison. Le seul sénateur RN, Stéphane Ravier, quitte le parti de Marine Le Pen, comme il l'annonçait ce matin sur Europe 1.
Je quitte le Rassemblement National, oui, pour rejoindre Éric Zemmour, pour le soutenir dans cette campagne. Je ne vous cache pas, vous l'aurez compris, qu'il y a un petit peu un retour aux sources. Même ça, il n'existe plus au Rassemblement National. Vous voyez, ces grands-messes, le défilé de Jeanne d'Arc, la fête des bleus, blancs, rouges, tout a été supprimé volontairement pour faire table rase du passé, pour qu'il n'y ait plus d'aspérité, on n'accroche plus à rien. On voit bien depuis plusieurs mois, mais même plusieurs années, que Marine Le Pen est en permanence en train de reculer, de composer, avant même d'avoir été élue.
Quels sont les reculs au pluriel de Marine Le Pen, selon vous?
L'islam compatible en toutes circonstances avec la République, j'avoue que ça commence à être difficile à accepter.
Mauvais coup donc pour Marine Le Pen. Le président par intérim de son parti fait cette analyse, Jordan Bardella.
Ça fait partie des péripéties de campagne. Je crois que c'est surtout une clarification sur le fond. Stéphane Ravier retrouve probablement chez Éric Zemmour le Front National d'il y a 20 ou 30 ans. Dans une forme de parti de témoignage et de contestation, ce sont des amoureux de la provocation, les adeptes aussi d'une ligne qui est peut-être plus brutale aujourd'hui que celle du Rassemblement National. Or cela, on en est sorti parce que ça ne permet pas de gagner l'élection présidentielle.
Laure Salvin de Kantar Public France. Cette analyse politique finalement de Jordan Bardella, Zemmour, ce serait la nostalgie du FN?
Alors, ce qu'on voit dans nos sondages d'opinion, et notamment sur l'image du Rassemblement national et de Marine Le Pen, c'est en effet un changement de structure, notamment, effectivement, une présidente qui est peut-être moins dans l'agressivité, moins dans l'autorité, et beaucoup plus dans une image plus sympathique et plus souple, d'ailleurs, de femme politique que son père ne pouvait l'être. Donc, en effet, le FN et le RN n'ont aujourd'hui rien à voir. Alors, les valeurs traditionnelles du FN hein, sont toujours défendues, mais c'est vrai qu'il y a eu un adoucissement, de en tout cas, de la candidate et de la présidente du Rassemblement national aujourd'hui.
Alors Stéphane Ravier n'est pas le premier cadre du Rassemblement national à passer chez Éric Zemmour. Pour Marine Le Pen, ces défections toutes les semaines, c'est véritablement le supplice du goutte à goutte.
C'est vrai que vous parliez de grands mercato. Je pense aussi que c'est le reflet finalement de l'état d'esprit des électeurs et des Français aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de volatilité, peut-être moins aussi de fidélité à son parti de formation et qu'on pouvait le voir traditionnellement. Et donc, finalement, un attrait plus ou moins marqué vers un candidat ou un autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça montre à quel point les choix des Français aujourd'hui restent quand même très fragiles. On est encore à 2 mois du premier tour. 39% des Français nous disent d'ailleurs ne pas savoir pour qui ils vont voter. C'est quand même un score très important. L'intérêt pour l'élection présidentielle aussi est moins important que les autres années. Donc, il y a quand même un effet aussi, effectivement, de cette distanciation du politique telle qu'on peut la commenter jour après jour.
Alors, Éric Woerth alimente également, lui, ce mercato hein, dans cette campagne électorale, puisque après l'avoir sévèrement critiqué au point de ne pas voter ses premiers budgets, il rejoint le camp du président de la République. Il s'en expliquait sur CNews tout à l'heure.
J'ai évolué, je ne suis pas militant jusqu'à l'aveuglement. Le président de la République, certes, peut-être que les 3 premières années n'ont pas été au moins celles qu'on aurait pu penser. Dans les 2 dernières années, il a quand même montré une vraie évolution, sa présidence a évolué vers de plus en plus, je pense, de maturité, de capacité à comprendre le pays, d'erreurs aussi, je les ai moi-même beaucoup dénoncées. Je pense qu'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron sera un bon mandat, sera un mandat nécessaire et utile pour le pays. Et je fais le pari qu'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron est une chance pour la France.
Éric Woerth, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui rejoint donc le président de la République, dont la candidature ne cesse d'être imminente. Christophe Castaner, le chef des députés République En Marche sur BFM.
Je ne doute pas qu'il soit candidat et il sera candidat. Il lui appartiendra de le dire, de le décider. Moi, je ne suis pas en mesure de vous le dire parce que, d'abord, je ne le sais pas personnellement. Je sais qu'il doit faire face à un certain nombre d'enjeux qui sont tels qu'il veut être totalement mobilisé.
Mais quel est le bon timing selon vous, monsieur Castaner ?
Il faudra que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il soit candidat.
Emmanuel Macron, qui dans un sondage IFOP que publiera demain Le Figaro et qui vient d'être rendu public, reste en tête des intentions de vote, 25% des voix. Loin derrière lui et tous les trois au coude à coude, Marine Le Pen à 16,5%, Valérie Pécresse à 15,5% et Éric Zemmour à 14,5%. Autant dire, Laure Salvin, que rien n'est joué. Si ce n'est qu'on connaît a priori l'un des deux participants au second tour, mais pas celui qui sera face à lui.
Tout à fait. Les sondages qui vont être intéressants, ce sont les sondages aussi qui vont avoir lieu dans les prochains jours, là, et notamment suite au meeting de Valérie Pécresse aujourd'hui. La question qui se pose, c'est en effet, est-ce que Valérie Pécresse va réussir à devenir le deuxième personnage important de cette campagne pour accéder au second tour? Est-ce qu'elle va arriver à dépasser Marine Le Pen dans les prochaines semaines? Dans son discours, et je pense qu'on va en parler lors du meeting...
Peut-être écouter tout de suite, vous avez raison, Laure Salvin. Valérie Pécresse, désireuse donc de se relancer avec son premier grand meeting à Paris. Elle avait dû renoncer en raison de la crise sanitaire à cette grande réunion publique le 11 décembre dernier. Et donc aujourd'hui, elle s'est employée à galvaniser quelques 6 000 personnes réunies au Zénith.
C'est un privilège d'être votre candidat, de porter vos couleurs, même si, désormais, c'est au peuple de France que je dois me donner. Plus je la parcours, plus je l'étreins, plus je l'étreins, plus elle m'émerveille. Et plus je sens monter en moi une impatience, celle de voir notre nation retrouver cette force qui appartient aux nations gagnantes. Cette force, je l'ai en moi. Une France qui ne sépare plus les premiers de cordée des travailleurs de première ligne. Tous unis, tous en tête, la voilà ma France.
Valérie Pécresse devant Lucile Gimbert de RFI avec des accents gaulliens, hein, Laure Salvin. Hein. Elle essaye véritablement de s'imposer.
Absolument, elle essaie de s'imposer. Je pense que le premier enjeu de ce meeting pour Valérie Pécresse, c'était de rassurer et consolider sa base et son électorat. Et pour cela, elle a mobilisé un certain nombre de valeurs autour de la famille, du travail, de la laïcité aussi. Et puis le second enjeu, évidemment, c'était de s'adresser à cette frange de la population, cette frange des électeurs qui hésite encore entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse d'un côté, et puis Emmanuel Macron et Valérie Pécresse de l'autre. Et pour cela, il me semble qu'elle a donné pas mal de gages au centre, aux électeurs de centre et aux électeurs d'une droite plus radicale.
Alors on parlait des soutiens que veulent absolument obtenir les uns et les autres. Valérie Pécresse aimerait bien celui de l'ancien président qu'est Nicolas Sarkozy. Ils se sont parlé hier. Alors on dit que l'ancien chef de l'État lui a donné des conseils. Mais pour l'instant, il n'a pas exprimé publiquement son soutien à Valérie Pécresse.
Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, la vraie problématique, c'est le non-soutien, en effet, de Nicolas Sarkozy, qui est perçu de façon symbolique comme une hésitation, des doutes peut-être à l'égard de la candidate. Et pour autant, une fois qu'il se sera prononcé, s'il la soutient ou pas, et notamment s'il la soutient, on se pose des questions sur le fait que ça crée ou pas une véritable dynamique. Pour rappel, hein, Nicolas Sarkozy a une cote de confiance qui reste encore assez faible, hein, notamment dans le Figaro magazine. Ça ne fait pas partie des personnalités de premier plan aujourd'hui en France.
Donc on verra bien effectivement si ce soutien, s'il intervient, aura un effet sur la campagne de Valérie Pécresse. Merci pour ces commentaires, Laure Salvin, directrice générale de Kantar Public France.